La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir des Françaises et des Français qui se mobilisent pour préparer le monde de demain. Ici, c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises et ce monde en pleine transformation. On en parle ensemble avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un an, nous étions nombreux à basculer dans l'inconnu, le télétravail. 5 jours sur 5, on l'a vécu ici de façon historique à Europe 1. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle organisation du travail? Quel sera l'avenir, tiens, finalement, de ce télétravail? On en parle jusqu'à 14h avec l'un des meilleurs spécialistes en la matière, Jean-Claude Delgène, le président et fondateur du cabinet Technologia.
À la une, en effet, ça fait un an que les réunions par écran interposé sont rentrées dans nos vies. Vous connaissez sûrement Zoom.
Eh oui.
Eh bien, moi, je vous propose Livestream, le Zoom français, et son PDG est dans notre studio d'ici quelques minutes.
Certains disent de lui que c'est finalement l'un des pionniers du télétravail. Il s'appelle Gauthier Toutlemonde et il était parti en 2013 sur une île déserte. Il voulait à l'époque se prouver qu'il pouvait gérer son entreprise à distance. Il va venir nous raconter son expérience.
Chaque jour dans La France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Iti Tour. Vous avez envie de voyager?
Oui, terriblement. Et bien
là, il s'agit d'un guide pour vous aider. Ça sort du cœur. Hein.
Ouais.
À préparer vos pérégrinations en France, ce projet tient-il la route? Réponse 13h45.
Et quitte à voyager, on a envie d'aller à l'hôtel. Alors vous dites que c'est peut-être pas le moment. Eh bien si, même là, on crée de l'emploi. On va passer un coup de fil à Laurent Taïeb. Son métier, c'est d'ouvrir des hôtels. Et il a 400 postes à pourvoir.
Et voilà, c'est ça, La France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors disons-le, elle bouge, mais parfois elle est un peu assise à la maison. Télétravail un an après. Comment allons-nous? Comment les entreprises ont dû prendre ce virage du télétravail? On en parle avec notre témoin du jour.
Bonjour Jean-Claude Delgène.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président fondateur de Technologia. Vous êtes expert en santé, expert en sécurité au travail. Le télétravail s'est imposé dans nos vies depuis un an. Les entreprises ont dû s'adapter en un temps record, mais aussi les salariés. On l'a vécu, nous, à Europe 1, comme le disait Emmanuel. Et ça s'est passé dans toute la France. Jean-Claude Delgène, on est monté à presque 6 millions de salariés en télétravail l'an dernier. Un tiers des salariés étaient en télétravail. Comment s'est passé cet apprentissage massif et soudain du télétravail?
Oui, vous avez tout à fait raison. On assiste avec le télétravail à un phénomène social tout à fait nouveau qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Il n'y a pas de référent pour comparer avec d'autres périodes historiques. On a donc basculé avec globalement 3% des salariés qui, avant la Covid de mars 2020, étaient en télétravail. 3% pour 8% à peu près des entreprises. Très peu dans le service public. On est passé à près de 6 millions de personnes qui, aujourd'hui, ont connu un effet d'apprentissage massif, hein, c'est-à-dire ont gagné du temps, quelque part. On estime qu'on a gagné à peu près 8 ans avec cette accélération en matière
8
de...
Ans.
Ouais, 8 ans en matière d'apprentissage, en matière de maturité numérique. C'est-à-dire que, bon, c'est comme quand vous allez à la piscine, vous pouvez un peu apprendre à nager. Si on vous jette dans l'eau, à un moment donné, vous allez nager. Ben, c'est ce qui s'est passé globalement pour des millions de gens.
Est-ce que ça n'a pas permis de lever ce qui était sûrement le plus dur à lever? Parce que là, vous parlez des freins technologiques, mais
oui.
Le frein sociétal, beaucoup de managers, beaucoup d'entreprises, allez, on va le dire sérieusement, disaient que le télétravail, c'était glandé à la maison.
Tout à fait, il y avait des résistances, des réticences de la part des employeurs qui étaient mal en fait conseillés, peut-être mal informés, qui considéraient que le télétravail, c'était pour les autres quelque part, hein, pour les pays nordiques où on était loin des centres urbains, etc. Et en fait, on a vu que nécessité faisant loi, chacun a pu s'adapter, chacun a pu comprendre que le télétravail permettait, dans une situation exceptionnelle, de maintenir l'activité. Alors, il faut faire attention malgré tout. Le télétravail offre énormément d'avantages, mais il a aussi quelques inconvénients. Et il faut, bien sûr, bien réfléchir pour capitaliser sur les avantages sans subir les inconvénients. Et pour ça, il faut développer, je dirais, des facteurs de réussite.
Et un accompagnement au télétravail, on va en parler. Jean-Claude Delgène, a-t-on une idée de la proportion des collaborateurs qui sont en télétravail en ce moment, un an après, parce que le télétravail est toujours recommandé, hein?
C'est environ entre 15 et 17% aujourd'hui. On est monté, si vous voulez, à peu près à un tiers, 5,8 millions. On est
donc
redescendu...
2 millions de salariés qui sont en ce moment en télétravail.
Voilà, voilà. Ça. Et on est redescendu à la fin de l'année. On est passé de 27% à la fin de l'année à environ 15% aujourd'hui. Voilà.
Dont certains qui ne sont jamais retournés sur leur lieu de travail. Certains sont en télétravail depuis le mois de mars dernier.
Oui, vous regardez par exemple dans les sociétés d'assurance à la Défense, sans donner de nom, bah, les gens ne sont pas revenus au travail depuis plus d'un an.
Il y a un point important là dans ce que vous dites avec Elisabeth Assayag, ne jamais être retourné au travail. Mais finalement, est-ce que ça, c'est du télétravail? Puisque ça n'avait jamais été prévu. Le 5 jours sur 5 imposé à la maison, est-ce vraiment ce que l'on peut appeler le télétravail?
C'est une très bonne question.
On essaye de temps en temps.
En fait, si vous voulez, le télétravail suppose malgré tout... pour moi, en tous les cas, une régulation pour maintenir, justement, je parlais tout à l'heure des inconvénients, un lien social, une convivialité, une intelligence collective, un bon nombre d'éléments qui manquent quand on est 5 jours sur 5 en télétravail. Donc, il faut faire attention. Et quand on parle de 5 jours sur 5, il faut faire attention parce que, globalement, on a une image du travail qui est celle de on commence le lundi matin à 8h, on finit le vendredi à 17h. Non. Aujourd'hui, 3/4 des Français sont en travail atypique. C'est-à-dire travaillent soit le dimanche, soit la nuit, soit en horaire décalé le soir, soit très tôt le matin, soit en alternance. Enfin, vous voyez, donc il y a énormément de formes de travail. Vous voyez, et donc le télétravail se glisse dans ces formes antérieures.
Mais alors, dans certains secteurs d'activité, comme l'agroalimentaire, la métallurgie ou encore la maintenance, eux, personne ne peut être en télétravail. Oui. Donc, est-ce que ça signifie que le rythme du travail, le travail de demain, va être du sur-mesure par secteur d'activité ou par individu ?
Certaines activités, vous parliez de la maintenance, et c'est une bonne remarque, supposent une coopération étroite. Quand vous êtes en train de travailler à plusieurs sur une machine pour soit la nettoyer, soit la réparer, il faut parfois plusieurs compétences, plusieurs personnes qui interagissent entre elles pour faire le travail. Donc, c'est très compliqué de mettre des personnes, je dirais, en télétravail. Ceci dit, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des progrès au niveau de l'automatisation. Par exemple, tout le contrôle qualité qui avant se faisait de visu en présence des produits qui passaient sur les chaînes, aujourd'hui, avec la réalité augmentée, avec la prise d'image, on peut parvenir à faire du contrôle qualité à distance. Et donc, il y a des phénomènes d'automatisation. Maintenant, le télétravail... il faut être clair, à mon avis, doit être limité à 2-3 jours dans la semaine.
Allez, on part sur 2 jours et demi, ce serait l'idéal.
Voilà,
2 jours et demi par semaine de télétravail, c'est ce que...
Trop, après, c'est...
Bah, c'est plus du télétravail, c'est du travail à la maison, mais on n'est plus dans le concept de télétravail.
Absolument.
Jean-Claude Delgène, vous êtes le président fondateur de Technologia, expert en santé, en sécurité au travail. Vous restez avec nous parce que vous êtes notre grand témoin du jour dans La France Bouge.
Europe 1, il est 13h18.
À suivre, passer ses journées devant un écran, à travailler avec ses collègues, eh bien, c'est aussi notre nouvelle façon d'aller au travail.
Oui, alors vous utilisez peut-être Zoom, la solution de Google ou autre, et ben nous on a trouvé du Made in France. Restez avec nous, c'est dans un instant. Allez, une France Bouge un peu spéciale aujourd'hui. Il y a un an, on peut pas dire qu'on l'a oublié, mais il y a un an, on partait avec nos ordinateurs sur le dos et c'était le début du télétravail pour beaucoup d'entre vous. Nos vies ont changé. On en parle aujourd'hui avec Jean-Claude Delgène, qui est le président fondateur de Technologia, expert en santé et sécurité au travail.
Et dans ce bouleversement, l'écran est devenu notre compagnon de travail depuis un an, un compagnon à la maison. En effet, avec la généralisation du télétravail dans les entreprises, pas un jour sans un Zoom ou sans un Livestorm. Bonjour Gilberto.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous, vous êtes le PDG, le cofondateur de Livestorm. Livestorm, c'est en quelque sorte, pour qu'on l'en comprenne tous, le Zoom français. Vous connaissez tous le Zoom, tiens, Zoom cet après-midi.
On a tous fait des apéros
Zoom.
Je suis
en Zoom demain, enfin, on l'a tous entendu cette expression. Vous, c'est Livestorm, ça existe depuis 2015. Votre entreprise est née d'un projet de fin d'études, vous l'avez monté en 2 mois. C'est une plateforme vidéo sur laquelle on peut se retrouver jusqu'à 1000 personnes, c'est bien ça ?
Tout à fait, et même plus maintenant, 2000 personnes, on augmente de plus en plus à la limite en fonction des besoins de nos clients, mais oui, c'est tout à fait ça, projet de fin d'études qui a pris beaucoup d'ampleur, notamment l'année dernière.
Alors ce qui est impressionnant, j'imagine pour vous, vous étiez prêt, vous étiez en place, vous n'étiez pas énormément utilisé avant le confinement, et là il a fallu gérer quoi ? Le cataclysme ?
Pour vous donner un petit peu, retracer un peu l'histoire, lorsqu'on arrive en début 2020, on a environ un bon millier de clients à travers le monde, donc on est quand même un petit peu installé, mais relativement confidentiel, on va dire, auprès du grand public. Et lorsque le Covid arrive, enfin le premier confinement arrive à mi-mars, entre la mi-mars et la fin mai, en l'occurrence, on gagne 2500 clients, donc on triple, voire presque quadruple la base client en l'espace de 2 mois et demi. Donc avec... Tous les embêtements que ça peut... Ça
et parce
peut,
que comment on gère ça, ça vos ordinateurs courir. Étaient
tout
dimensionnés pour que ça tienne, voilà, exactement.
Exactement, c'est vraiment ça. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dommages collatéraux, entre guillemets. Donc forcément, vous avez votre architecture technique que vous devez mettre à l'échelle parce qu'elle n'est pas prévue pour absorber une charge de 2500 clients en l'espace de 2 mois. Donc là, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé avec les équipes techniques. On a vraiment repriorisé tout sur la fiabilité et sur cette partie-là. Et puis, le deuxième dommage collatéral, entre guillemets, c'est tout simplement le service client. Mmh. Vous avez 4 personnes qui gèrent environ 2000 tickets par jour ou par mois, en l'occurrence, et tout d'un coup se mettent à gérer 20 000 tickets par mois. Donc littéralement, 10 fois plus alors qu'ils sont 4. Et donc là, il faut recruter, revoir les process, mettre les équipes produits pour les aider à répondre aux tickets, enfin bref.
Donc ça veut dire que vous avez embauché, vous, en pleine crise, en plein confinement.
On a vraiment été du bon côté de la barrière. On est passé de 30 à 80 personnes en l'espace d'un an.
Alors, on vous surnomme le Zoom français. Ça veut dire quoi concrètement ?
Écoutez, déjà, je le prends très très bien parce que au vu de là où est Zoom, c'est tout ce que je peux souhaiter à Livestorm. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Livestorm se positionne plutôt comme cette nouvelle génération où finalement la vidéo, à contrario de Zoom, est peut-être un petit peu moins importante dans les usages. Nous, ce qu'on met en avant, c'est dire qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est relativement acquis. Maintenant, c'est comment on la package, en fait, comment on lui donne du sens, comment on permet aux gens de s'organiser autour de la vidéo, créer des événements, créer des emails de rappel, de l'analytics, se connecter avec leurs outils de travail, enfin toutes ces choses qui font que la vidéo n'est plus juste un paradigme IT, mais devient vraiment un paradigme utilisateur qui est vraiment centré sur l'utilisateur et son travail à lui, quoi.
Jean-Claude Delgen, je rappelle que vous êtes le président fondateur de Technologia, cabinet d'expertise en santé, de sécurité au travail. Alors que ce soit Livestorm, que ce soit Zoom, que ce soit Teams, que ce soit bien d'autres, ils sont effectivement tous centrés dans nos vies. Mais c'est fatigant de passer notre journée devant un ordinateur à la maison. Comment il faut faire attention à tout ça ?
Justement, il faut, avant de se lancer dans le télétravail, l'employeur doit mettre en place ce qu'on appelle un manuel des bonnes pratiques.
Oui, mais ça, c'est dans la théorie.
Voilà, ça se fait. Par exemple, là, pour éviter les effets tunnels qui sont très préjudiciables en matière de connexion, c'est-à-dire les gens qui restent 8 heures.
Il y en a énormément de personnes commencent leur premier Zoom à 9h du matin. Et en plus, quand on travaille avec l'étranger, on s'adapte avec les décalages horaires. Il y en a qui sont de 8h du matin à 22h sur leur écran.
Donc cet effet tunnel est très mauvais pour l'individu. Donc il faut justement permettre... Il y a deux réflexes. Le premier, c'est séquencer ses journées. C'est-à-dire prendre toutes les heures une pause d'un quart d'heure. Le deuxième, c'est ne pas négliger l'activité physique. On constate aujourd'hui, au bout d'un an, qu'il y a beaucoup de remontées de maladies cardiovasculaires parce que les gens ne bougent plus. Auparavant, les gens bougeaient, ils allaient prendre les transports en commun, ils allaient à leur travail, ils bougeaient, ils allaient faire les courses, etc. Aujourd'hui, les gens ne bougent plus assez. Et c'est une véritable bombe à retardement. Il faut donc faire en sorte, y compris en télétravail, que les gens bougent, fassent de la gym, du vélo d'appartement quand ils sont dans la ville, et qu'ils ne se laissent pas aller à une certaine inertie.
Mais il faut imposer alors à son employeur, ou quand on a un rendez-vous, je ne sais pas, avec un collègue en Chine, dire bah non, en fait là, je dois aller marcher, je dois prendre mon déjeuner.
Rigide.
Non, mais c'est compliqué d'imposer
absolument,
ça.
C'est compliqué, mais il faut avoir cette préoccupation à l'esprit, c'est-à-dire que d'éviter de très longues durées de connexion qui sont très mauvaises, y compris au niveau neurologique.
Et oculaire.
Et puis, la question se pose aussi de l'attention pendant ces réunions. Parce que là, on sait qu'en présentiel, déjà, il y a beaucoup de réunions qui ne servent pas à grand-chose. La réunion est aiguë, comme on dit souvent, est un mal français.
Il y en a moins aujourd'hui quand même.
Il y en a moins aujourd'hui, mais c'est compliqué d'avoir l'attention de tout le monde dans ce genre de moment. Et là, ce qui est intéressant aussi avec Livestorm, c'est comment ils travaillent, finalement, j'allais dire, à rendre ça ludique.
Oui, le grand progrès technologique, je connais pas bien la forme, mais je vais regarder, mais ou les autres outils, c'est que il y a eu un tel progrès technique depuis 2007 aujourd'hui qu'on peut vraiment travailler à distance. Sauf que ce travail à distance conduit aussi à perdre un certain nombre d'informations. Imaginez, vous êtes en réunion avec une dizaine de personnes, vous tenez un propos, vous ne voyez pas forcément tous les visages, et quand vous tenez ce propos, à un moment donné, il y a un de vos collègues qui lève les yeux au ciel, qui hoche la tête. Ce message non-verbal, vous n'allez pas le voir. Et pour autant, il est essentiel. Vous voyez, c'est ça toute la difficulté. C'est le non-formel, c'est le non-formalisé. Et cette communication non-verbale qui échappe à l'outil peut avoir des conséquences énormes.
Gilberto, je crois que vous avez levé plus de 3 millions de dollars là, au début du mois de novembre, c'est bien ça ?
Un peu plus, il faut rajouter un zéro, 30 millions de dollars.
30 millions de dollars, mais alors écoute, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bien, hein, qui vont bien en France. Merci à vous, Gilberto. Vous êtes le PDG, le cofondateur de Life Store.
Bon succès, hein, surtout. Hein.
Et un très, très beau succès. C'est le Zoom français pour ceux qui nous rejoignent en ce moment sur Europe 1 pour mieux comprendre.
Et Jean-Claude Delgen, le président fondateur de Technologia, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
Europe 1, il est 13h28 à suivre. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui a fait du télétravail dans un endroit complètement inattendu.
Alors, était-ce un bateau? Était-ce une forêt? Était-ce une île? La réponse est d'ici quelques minutes. Et on est comme chaque jour ravis avec Elisabeth de vous accueillir en direct sur Europe 1 de 13h à 14h pour la France Bouge. Une France Bouge spéciale à nouveau aujourd'hui puisque, allez, est-ce qu'on va dire qu'on fête les 1 an du premier confinement?
Peut-être pas quand même.
Mais en tout cas, ça fait 1 an que la France a basculé dans cet terrain inconnu qui s'appelle le télétravail pour une bonne partie de collaborateurs et on en parle avec l'un des plus grands spécialistes en la matière, Jean-Claude Delgen, qui est le président fondateur de Technologia, expert en santé et sécurité au travail.
Et Jean-Claude Delgen qui nous a dit qu'on avait gagné 8 ans en matière de télétravail en France, comme quoi même dans les moments de crise il se passe des choses extrêmement positives et c'est pour ça aussi qu'on vous en parle dans La France Bouge. Et au moment où nous découvrions le télétravail en 2020 lors du premier confinement, d'autres eux avaient choisi déjà de s'exiler sur une île déserte il y a 8 ans. Il était en quelque sorte le précurseur du télétravail. Bonjour Gauthier Tout le Monde.
Bonjour.
Vous avez 62 ans, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes un précurseur du télétravail parce que bon, vous avez eu plein de vies, hein. Vous avez travaillé dans une banque, puis vous avez été éditeur et très rapidement, vous avez commencé des expériences en télétravail. La première, c'était en 2013 sur une île déserte et c'est très sérieux.
Oui, tout à fait. C'était au large de Sumatra, en Indonésie. Je voulais prouver qu'avec le solaire, l'énergie solaire et les nouvelles technologies, on pouvait diriger sa société de n'importe où. Et c'est quelque chose qui me fascinait. J'avais aussi une fascination pour les îles désertes.
Et donc vous avez réuni les deux.
J'ai réuni les deux, c'était une expérience assez inédite à l'époque.
40 jours, hein, avec 40 un ordi, jours. Un panneau solaire et une île rien que pour vous.
Alors j'avais 4 panneaux solaires, 2 ordinateurs, il faut tout doubler sur une île, ouais. Un capteur d'internet satellitaire, j'avais pas de réseau évidemment, j'étais très éloigné.
Et un matériel de pêche.
un matériel de pêche que j'ai peu utilisé et un hamac qui me permettait de dormir.
On est en 2013, qu'est-ce qui vous avait donné envie à l'époque de vous prouver que vous pouviez gérer votre boîte à distance pendant 40 jours?
Il y avait une volonté un peu écologique. En fait, c'est venu à Paris. Je voyais les gens dans le métro. J'avais du personnel qui passait parfois 3h30, 4h dans le métro. Et je trouvais ça absurde, alors qu'elles auraient pu faire le travail chez moi. Enfin,
au
bureau ou chez eux. Et donc, je me suis dit, c'est absurde de tout ça. Il y avait des personnes qui avaient aussi des enfants à charge. Je me suis dit, mais pourquoi elles ne travaillaient pas 2 jours par semaine chez elles? Enfin, il y avait toutes ces questions-là. Il y avait également les handicapés.
Alors on pousse le concept à l'extrême avec vous. Comment on travaille sur une île déserte? C'est quoi le télétravail? On organise comment ces journées en télétravail sur une île à l'est de Sumatra?
Avec le décalage horaire en plus.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait 6 heures, ce qui est beaucoup. Au départ, je pensais que j'allais pas me la couler douce quand même, mais que ce serait relativement facile. Et en fait, j'étais surpris par la nature. C'est-à-dire que je suis parti au moment de la saison des pluies, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée. Donc j'ai eu des orages monstrueux. Dès le premier jour, j'ai failli me faire mordre mortellement par un serpent. Donc je me suis rendu compte que l'univers que j'imaginais, qui était un peu paradisiaque, c'était pas celui-là. En fait, on parvient à travailler à distance lorsqu'on s'impose une discipline personnelle très forte.
Ah, c'est un peu ce que disait Jean-Claude Delgen.
Sinon, ça dérape.
Donc c'est quoi cette discipline pour vous sur l'île déserte?
En fait, le boss, c'est la nature. On se lève à 5h du matin avec le soleil. Et puis, on essaye de se plier au rythme de la nature. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner.
Et il y a un point très important. Vous dites que vous êtes rendu compte à ce moment-là qu'il faut savoir débrancher à un moment. Il faut savoir se dire, la journée de travail est terminée et je vais à la pêche, même si vous dites que vous n'avez pas utilisé beaucoup votre matériel de pêche.
C'est tout à fait exact, parce que finalement, mes journées commençaient à 5h et se terminaient à minuit parce que j'étais en décalage horaire avec la France. En fait, le télétravail conditionne. C'est-à-dire qu'à la fin, l'île était identifiée au bureau.
Et la nature, c'est le patron alors.
Oui. Et certains week-ends, je me disais, ce serait sympa, il y avait une île qui était en face de la mienne, ce serait sympa de quitter le bureau pour aller sur une île déserte. Vous vous rendez incroyable. Compte à quel point on peut être conditionné mentalement.
Donc vous disiez que vous viviez au rythme de la nature, donc c'est la nature qui vous guidait dans vos choix. Donc finalement, vous deviez rendre des comptes à la nature. Alors, enfin, au-delà de faire rentrer de l'argent dans votre entreprise. Mais...
La nature est exigeante, mais elle a aussi des bons moments. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, vous voyez le soleil se lever, vous avez l'impression que c'est le premier matin du monde, et là, vous êtes récompensé. Par contre, quand vous prenez des pluies monstrueuses, là, c'est horrible.
Est-ce que votre entreprise a mieux fonctionné ou moins bien fonctionné avec vous en télétravail ?
Je crois que c'était un projet qu'on avait en commun, et il y avait une confiance réciproque dans le manager et puis moi dans mon équipe, et du coup on a très très bien fonctionné, on n'a pas reculé sur la qualité qu'on offrait à nos lecteurs.
Et là, quelles sont les conséquences ? Depuis un an, la France a basculé pour ceux qui le peuvent en télétravail, vous du coup vous étiez préparé à tout ça, vous avez tout basculé en télétravail ?
Oui, absolument.
Et ça se passe bien.
100%.
Ça se passe bien, et oui, on s'habitue très bien, parce qu'on avait déjà une antériorité.
Jean-Claude Delgène, quand on entend ce témoignage absolument fantastique de Gauthier Tout-le-Monde, qui en 2013 est parti sur une île déserte, vous avez recommencé je crois en 2017, mais là c'était dans le désert.
Dans le désert, oui.
Le point commun avec tout ce que l'on vit nous en ce moment, c'est le rythme, et c'est aussi la solitude, parce qu'on se sent seul parfois devant son écran, même si on est toute la journée avec les collègues par écran interposé.
Tout à fait, et cet exploit qui nous a été conté, il faut faire attention parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Il y a un grand nombre de salariés, de travailleurs qui sont avec une latitude, une autonomie insuffisante pour pouvoir, je dirais, même travailler seul chez eux. Hein. Il faut être clair là-dessus. Il y a des gens qui sont, par exemple, vous prenez des gens qui sont célibataires, par exemple, sans pour eux, qui vivent mal leur célibat.
Qui vivent déjà seuls.
Qui vivent mal leur célibat. Si vous leur rajoutez en plus à leur solitude, l'isolement, ça peut être très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir que le lieu de travail, le lien, est le lien d'appartenance par excellence. L'entreprise, le service public permettent aux gens de se créer au quotidien, d'être avec les autres je dirais, d'exercer leur créativité. Donc, quand vous coupez ce lien, vous pouvez mettre les gens en difficulté. Hein, il faut le savoir. Ce n'est pas tout le monde. Certains s'adaptent très bien au télétravail. Vous voyez ?
Mais du coup, vous disiez tout à l'heure, on a gagné 8 ans sur l'acceptation du télétravail en France. On a gagné sûrement 50 ans pour tester les avantages et les inconvénients du télétravail, puisqu'on l'a poussé à l'extrême. Vous disiez tout à l'heure, 2 jours et demi, c'est sûrement le max que l'on puisse faire. Mais comment il faut aussi encadrer tout cela, c'est-à-dire faire en sorte effectivement qu'on décroche à la maison. Est-ce qu'il faut aussi que les employeurs payent une partie du chauffage ? Il y a eu un accord qui a été signé entre les parties sociales. Mais c'est quoi le télétravail idéal demain ?
Alors là, tous les facteurs de réussite, ils sont nombreux. Déjà, ce que je dirais, c'est qu'il faut un bon dialogue social entre les représentants des salariés et l'employeur. Quand vous avez un bon dialogue social, on règle facilement les problèmes. Et c'est vrai que le télétravail, de ce point de vue-là, a été révélateur. Les gens qui avaient un mauvais dialogue social se sont beaucoup moins débrouillés que ceux qui avaient un dialogue social fluide. La deuxième chose, il faut prévoir la réversibilité. C'est-à-dire que si vous allez vers le télétravail, il faut prévoir le fait que vous pouvez y compris revenir en présentiel. Hein, parce qu'il y a des gens qui peut-être vont dire « je ne veux plus revenir en présentiel ».
Ah oui, il y en a.
Donc, faut le prévoir. Après, et encore que je disais tout à l'heure, il y a nécessité d'avoir de bonnes pratiques, de respecter la durée du travail. Je discutais dernièrement avec une amie qui dirige une grande chaîne de radio un peu concurrente de la vôtre, et elle me disait qu'elle avait des problèmes chez elle parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et que les jeunes travaillaient la nuit. Vous voyez, ils faisaient leur job mais faisaient la nuit, et donc il y avait un manque, il y avait une désynchronisation.
Mais est-ce que ça change aussi le rôle de l'entreprise quand on y vient ? Parce qu'on n'y vient pas que pour être en présentiel. Est-ce que ça doit être le moment du brainstorming,
Voilà, quand vous êtes en télétravail, il faut penser le télétravail en fonction du travail en présentiel et organiser en présentiel des moments pour permettre aux gens de se rencontrer. Pourquoi ? Parce que le télétravail ne permet pas aussi facilement que le travail en présentiel la création de valeur. En clair, pour certaines activités tout au moins. En clair, quand vous êtes en télétravail, vous perdez en intelligence collective et vous perdez à ce qu'on appelle, c'est un nom un peu compliqué, mais la sérendipité, c'est-à-dire le fait de découvrir sans chercher. Hein, vous voyez, je donnais l'exemple de Fleming qui a découvert la pénicilline sans la chercher, puisqu'il a abandonné des lamelles sur son bureau, il les a retrouvées 3 jours après et il a pu voir le développement des moisissures et il a découvert après la pénicilline à partir de là. Eh bien, bon nombre de découvertes sont le fait du hasard, de l'impromptu, je dirais de l'incertain qui pénètre nos vies. Vous voyez, donc ça c'est très essentiel.
Et donc de la magie du groupe.
Voilà. la magie du groupe et puis la magie aussi de l'ouverture. Et quand vous êtes en télétravail, vous êtes toujours à prévoir. Et quand vous travaillez, ben vous faites des choix et les choix peuvent être, ne peuvent être pas toujours heureux.
Gauthier, tout le monde, aujourd'hui vous avez le projet de monter un espace de coworking, toujours oui. En conditions de survie. C'est important pour vous cette histoire de conditions de survie dans l'entreprise ?
Oui, je trouve que c'est intéressant. Et j'ai aussi envie de partager l'expérience que j'ai eue du télétravail un petit peu de l'extrême, tout comme cette envie de partager l'amour de la nature que j'ai. Voilà, donc je vais leur proposer de télétravailler dans une île déserte en Indonésie.
Merci Gauthier tout le monde. Merci. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez fait du télétravail en 2013 sur une île déserte en plein milieu du désert en 2017.
Et Jean-Claude Delgène, le président fondateur de Technologia Expert en santé et sécurité au travail, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14 ans et vous avez peut-être changé même un petit peu de fonction là. On va être en position de coach puisque vous allez donner votre avis sur un projet d'entreprise.
Europe 1, il est 13h40, le pitch du jour justement, cette IT Tour.
Oui, c'est un petit guide numérique pour nous aider à organiser ce dont on rêve beaucoup, ce dont on est beaucoup à rêver.
Faire des voyages.
Allez, restez avec nous. Et oui, bien sûr, quelle bouche est de France. Moment fort de notre émission, nous allons découvrir le pitch du jour, un pitch devant l'œil. Attention hein, quand même, exigeant et attentif de notre témoin du jour, Jean-Claude Delgène, qui est le président fondateur de Technologia, expert en santé, sécurité au travail. Et puis on va bien évidemment retrouver notre fée à nous, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui est déjà là et qui va aller tout à l'heure donner tous ses conseils.
Et on vous le montre chaque jour dans La France Bouge, des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont raison. Ça a été votre cas, Adrien Bonne-Mère. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 27 ans. Il y a 3 ans, vous avez fondé un guide de voyage spécialisé dans la France. Vous allez nous le décrire. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Alors bonjour à tous, moi je présente aujourd'hui IT Tour. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un site et une application de voyage gratuite qui facilite l'organisation de vos séjours partout en France. Donc on est spécialisé sur la France. Alors comment ça marche ? On met en avant 3 moteurs de recherche. Donc le premier qui s'appelle lieu à visiter. Donc vous avez juste besoin de rentrer le département, la ville, le village que vous voulez visiter. Vous pouvez sélectionner ou non des critères parmi une liste. Et du coup IT Tour va vous afficher tout ce qu'il y a à faire dans le lieu que vous avez choisi en fonction de vos critères. Donc c'est une recherche qui est gratuite, qui est instantanée et du coup qui va être personnalisable. Le deuxième moteur de recherche s'appelle itinéraire par durée. Donc c'est des itinéraires qu'on a préétablis. Donc là vous avez juste besoin de vous laisser guider par les itinéraires jour par jour pour visiter du coup un département ou une ville. Et le troisième moteur de recherche, c'est une mise en relation avec des super explorateurs. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des passionnés, qu'ils soient professionnels ou particuliers, qui vont vous faire une visite lors d'un circuit pour vous expliquer un peu les anecdotes sur les villes et tout ce qu'il y a à faire dans cette ville-là.
Eh bien voilà, bravo déjà Adrien, vous avez vous rentré parfaitement dans la minute, c'est déjà très réussi pour ce pitch.
Adrien, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Adrien, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous avez passé la nuit, je crois, étudier IT Tour.
Elle se moque.
Alors donc, quelles sont les forces et les faiblesses d'IT Tour ? On vous écoute.
Alors déjà, c'est simple. Des villes, les principaux lieux à visiter avec une rapide explication, la possibilité de mettre des critères de recherche, c'est super facile.
C'est vrai.
Donc ça, c'est vrai, super point positif. La mise en relation avec des explorateurs pour visiter la ville, ça évite d'aller à l'office du tourisme, prendre un rendez-vous, se retrouver avec 10 personnes. Bref, c'est super pratique aussi. Et puis, la gratuité de l'application. Et le prix des visites, pour l'instant, c'est entre 9 et 15 euros, donc parfaitement accessible au plus grand nombre. Sur les points améliorés, je dirais plutôt des suggestions. En fait, vous pourriez pousser beaucoup plus loin le collaboratif. Vous avez commencé avec les explorateurs, qui sont en fait des locaux, qui partagent le goût de leur ville. Vous pourriez donc aller plus loin avec la notation des lieux. Aujourd'hui, on ne peut pas la compléter. Avec l'ajout de lieux par les visiteurs eux-mêmes, la possibilité de recommander des explorateurs et surtout avoir les visiteurs eux-mêmes qui recommandent votre application. Faites jouer absolument la solidarité des voyageurs pour augmenter la visibilité de votre entreprise et puis enrichir votre contenu. C'est ça qui fera la différence.
C'est intéressant ce que vous dit Nathalie Carré. Elle vous dit d'accentuer davantage le contenu pour nous donner plus envie aussi.
C'est très intéressant parce que le contenu qui a date sur le site, on l'a fait nous-mêmes. Les notations aussi, un peu sur le même principe qu'un guide papier. Mais c'est vrai que de faire participer les gens, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, donc on demande sur Instagram, sur Facebook, des avis de voyageurs, des récits de leur voyage.
Mais c'est vrai que ça manque un peu sur votre site, du coup, tout ça.
Alors, sur le site, la seule fois où ils vont intervenir, c'est sur la notation de leur visite avec des super explorateurs. Donc là, ils vont pouvoir noter le super explorateur et mettre un commentaire. Mais à date d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas noter les lieux qu'on a mis.
Alors, on le disait, hein, c'est gratuit, mais comment vous gagnez votre vie? Parce que vous n'êtes pas qu'un philanthrope pour nous donner envie d'aller visiter des villes en France. Hein.
Alors, juste pour le point de la gratuité, ce qu'on voulait faire en nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de dynamiser nos régions et de mettre en avant le patrimoine au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que l'application est gratuite. Sur la partie rémunération, en fait, on a trois axes de rémunération. Donc, sur la partie visite avec des guides, donc là, les guides, eux, ce n'est pas gratuit, ils vont faire un circuit où ils vont mettre un tarif par personne. Et là, on va prendre une commission sur le paiement.
C'est hyper compliqué, je trouve. Parce qu'il faut, une fois qu'on a trouvé le trajet, il faut être sûr que votre client prenne un guide, c'est pas sûr.
Alors, s'il ne prend pas de guide, du coup, là, on a juste des... Ça, c'est le deuxième axe, où quand vous allez lancer une recherche dans un lieu à visiter, vous allez avoir des liens vers des restaurants et des hôtels. Où là, on a des liens sponsorisés avec Booking et TripAdvisor.
Qui, et ensuite, eux, vont en plus se prendre une com aussi.
Qui, eux, prennent une com aussi, bien évidemment. Et le troisième point où on se rémunère, c'est que vous avez des pubs qui sont intégrées sur le site. Donc, à chaque fois que vous voyez des pages sur lieu à visiter ou itinéraire par durée, on est rémunéré par des pubs avec Google.
Et c'est pas trop dur en ce moment? Parce que là, c'est... avec le fait que les restaurants soient fermés, que les hôtels soient fermés, qu'on puisse pas visiter grand-chose en ce moment?
Là, pour le coup, au niveau rémunération, oui, c'est un peu dur.
En tout cas, on va suivre votre appli, parce que nous, on va à Aurillac la semaine prochaine pour La France Bouge. Donc, d'accord, on va aller, grâce à vous, visiter Aurillac. Jean-Claude Delgène, le président fondateur de Technologia, expert en santé et sécurité au travail. Vous en pensez quoi de ce projet?
Écoutez, c'est un projet, il faudra voir comment il va se développer. Il est certain que si la vague des touristes revient en France, ça peut être un atout considérable pour porter... le projet. Moi, je pense que c'est effectivement une bonne initiative. Après, bon, faudra voir, parce que le faire simplement en France, ça peut être un peu peut-être limitatif. Je pense qu'il faudra aller vers d'autres pays. Quand par exemple vous avez des Japonais qui viennent en France, ils vont pas faire que la France. Ils vont aller en Belgique, ils vont aller en Allemagne, ils vont aller en Italie. Donc, il faudra peut-être avoir une extension pour pouvoir capter des publics lointains qui font des milliers de kilomètres pour venir dans notre pays, même si le pays reste incontournable.
Adrien, je crois que vous avez besoin de guides en ce moment, plus que d'argent apparemment.
Alors, on a trois besoins. Du coup, oui, c'est d'avoir des guides qui s'inscrivent. C'est pour ça que je lance un appel à tous les passionnés de patrimoine en France. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Alors, ça peut être des étudiants dans le tourisme, des retraités qui sont dans leur village, qui ont envie aussi de partager leurs anecdotes. Donc, vous pouvez vous inscrire pour faire partager vos connaissances lors d'une visite. Mmh. Et maintenant qu'on a fini le site complètement, qu'on a traité toute la France, on est du coup ce que j'appelle en stade 2. Donc là, on aimerait faire une levée de fonds prochainement pour justement embaucher des gens avec nous et du coup développer le site, comme vous disiez très justement, à l'international.
C'est extrêmement ambitieux. On vous le souhaite de réussir, qu'on puisse tous aller visiter
l'Italie, c'est un beau pays, parce que la France et l'Italie, à L2, elles ont quasiment la moitié du patrimoine mondial en termes d'art. Donc vous voyez, il faut aller en Italie.
Donc vous pouvez ouvrir les destinations. Merci à vous, Adrien Bonnemère. Vous êtes le cofondateur d'Iti Tour.
Et chers auditeurs, vous restez avec nous. Et si vous aussi, vous voulez venir pitcher comme ça dans la France Bouge, bien, c'est très simple. Une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous pourrez comme ça faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia, vous restez encore un petit peu avec nous pour la suite et la fin de notre émission.
Europe 1, 13h51 sur Europe 1.
À suivre demain, un emploi. Chaque mercredi, nous accompagnons, nous soutenons les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Comment? Eh bien, en leur proposant des offres d'emploi, justement.
Et c'est encore le cas aujourd'hui. On ne vous dit pas où, comme à chaque fois. Restez avec nous. Et oui, la France bouge et nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Jean-Claude Delgène, qui est le président fondateur de Technologia, expert en santé, sécurité au travail. Allez, on va le dire, on fait des miracles quand même à la France Bouge, hein, puisque demain un emploi, chaque mercredi, chaque vendredi, dédié pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui connaissent en ce moment, pour la plupart d'entre eux, une situation bien compliquée.
Et des emplois que vous pouvez retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Bonjour Laurent Taïeb.
Bonjour.
Vous êtes le dirigeant du groupe Laurent Taïeb, donc ça porte votre nom et votre prénom. C'est un groupe de restaurants, d'hôtels, et si vous êtes dans la France Bouge, eh bien, c'est parce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Vous avez 400 offres d'emploi dans la restauration et dans l'hôtellerie. Et il faut le faire parce que tout est fermé en plus en ce moment.
Alors, c'est sûr que nous, ces hôtels vont ouvrir. Donc, on n'a pas... Un va ouvrir en janvier 2022 et l'autre en avril 2022. Et donc, le recrutement commence en règle générale dans les hôtels 12 mois avant pour les cadres dirigeants. Et au fur et à mesure des mois à venir, on va recruter l'ensemble des salariés. Et ces deux hôtels représentent 400 emplois.
400 emplois, et notamment pour les jeunes, des jobs qui sont accessibles tout de suite.
Eh bien oui, parce que si vous voulez, dans la restauration, aujourd'hui, ceux qui ont le plus souffert à cause de la crise sanitaire, c'est tous les gens qui sont jeunes, qui sont avec peu de diplômes ou peu de qualifications, ou ceux qui font leurs études et qui viennent travailler en complément dans les hôtels et dans les restaurants. Mmh. Et donc, si vous voulez, on va commencer à recruter ces gens dans les semaines et dans les mois à venir. Et ce sont on peut engager plein de jeunes qui ont peu de qualifications qu'on formera.
Alors c'est un secteur compliqué, le vôtre, j'imagine qu'il y a un peu de stress en ce moment. Il faut espérer que tout rentre dans l'ordre pour que ça puisse se rouvrir normalement.
Alors il faut espérer, sur certains lieux qu'on possède déjà, comme le restaurant Kong, malheureusement, tous mes confrères, nous sommes fermés, les gens sont au chômage partiel. C'est vrai qu'on manque de visibilité, mais il me semble, sans être d'un optimisme démesuré, que vers septembre-octobre, ça devrait être un peu derrière nous, en tout cas en Europe. Que le trafic européen devrait reprendre, moi je pense, dès cet été.
Jean-Claude Delgène, vous êtes le président fondateur de Technologia, vous êtes notre témoin du jour. Comment on embauche en ce moment quand on est essentiellement en télétravail ?
C'est très compliqué et il y a bon nombre d'échecs qui sont liés à ces modes de recrutement. Nous, on a eu plusieurs cas à traiter. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes à distance, quand vous recrutez quelqu'un à distance, il y a toute une partie de la personne qui vous échappe. Et je déconseille, moi, tout à fait, de faire des recrutements essentiellement à distance. Et il doit y avoir une phase de validation en présentiel. Parce que en présentiel, le candidat au recrutement montre autre chose de lui-même. Vous voyez ? Et donc, c'est risqué. Alors, bien sûr, quand vous avez, comme M. Taïeb, beaucoup de gens à recruter, bon, le risque, il est moindre. Bon, mais quand vous avez des postes clés, avec des compétences critiques à retenir, des compétences stratégiques, il vaut quand même beaucoup mieux voir la personne avec qui vous allez travailler.
C'est mieux de voir la personne avec qui on va travailler. Merci à vous, Laurent Taïeb, pour postuler. C'est contact@groupehealth.fr. Ces offres sont à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Déjà 32 000 offres qui sont en ligne en ce moment. Si vous cherchez un emploi, c'est en ce moment, c'est sur europe1.fr. Vous avez 32 000 offres. C'est la fin de votre émission. Merci à vous, Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia. On a passé un très bon moment avec
vous.
Merci.
Et on se retrouve demain, il paraît, Elisabeth.
Eh bien oui, et demain on va parler de quoi, Emmanuel ?
Eh bien on va parler du marché du lait. Ce sera le patron de Candia qui sera à votre place, Jean-Claude Delgène.
Restez sur Europe 1, dans un instant le flash, suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.